CISO 101.7 avec Luc Denoncourt. À deux, c'est mieux.
De la belle visite à deux, c'est mieux aujourd'hui. On devait le recevoir il y a quelques temps, mais il faisait pas beau. Et là, il est là, Simon Morin.
Il faisait pas beau.
Non.
Il fait beau.
Là, il fait beau. Il a failli pas faire beau.
Il a failli pas faire beau.
Simon, comment vas-tu?
Ça va super bien.
Merci en famille aujourd'hui?
Ben oui. Tom est là avec ses beaux petits yeux bleus puis son nouveau lapin. Ouais.
Ça a un peu donné le ton à l'album, cette grossesse de ta blonde, parce que le premier album était un peu plus dark, plus rock. Ouais. Là, on est dans la lumière, dans l'espoir. C'est cette nouvelle-là, en fait, qui t'a amené là, en tout cas en partie.
Je te dirais que c'est d'abord et avant tout, c'est la sortie de la pandémie, si on veut. C'est comme l'espoir qu'on allait vivre autre chose que le confinement puis toutes ces affaires-là. Ouais. J'avais envie de faire un album qui allait me donner... qui allait me donner de la vision pour le futur, justement. Puis ben après ça, est venue la nouvelle. Puis là, on rentre en studio avec Amé Laoni puis Étienne Chagnon, qui sont le réalisateur, puis dans le fond, Sablon. Qui était l'auteur qui a écrit plein de tunes pour moi. Puis elle m'écoute dans mes inquiétudes, parce qu'eux autres aussi ont un enfant. Puis là, ben dans mes inquiétudes, puis tout, elle écrit une tune. Puis là, je suis comme, hey, une tune un peu pour Tom, un peu pour moi. Qui s'appelle Je te promets sur l'album, puis c'est sûr que ça a donné le ton, c'est sûr que ça a donné, comment dire, un genre de vent de fraîcheur à cet album-là, puis j'avais envie de mettre un peu de lumière dedans, finalement il y en a un peu plus qui est rentré. Là,
plus pop que le premier, est-ce que je me trompe? Est-ce que tu avais envie d'aller plus là, ou c'est la thématique, le fait de travailler avec Étienne aussi, qui fait de la pop avec Amé, est-ce que c'est un peu tout ça qui t'a amené vers ça?
Je pense que tu sais le fait de vouloir mettre de la lumière dedans m'a amené plus de sourire, de sourire amène un petit peu plus des beats qui sont plus joyeux, on va le dire comme ça, puis ça donne, ça fait en sorte que bon, ben, on s'en va vers de quoi qui est un peu plus pop, mais il y a des essences rock là-dedans. Puis, tu sais, mettons, quand j'écoute du Imagine Dragon, ben, qui est mon inspiration première, il y a beaucoup de pop dans ce qu'ils font.
Oui.
Il y a de la lumière, il y a du darkness aussi. Tu sais, si on écoute Tomber dans l'oubli, qui est pas une tune super joyeuse, Un jour, qui est pas une tune super joyeuse, Quand les murs tomberont aussi, qui parle de ma dépression, qui parle de mon retour à l'espoir, si on veut, ben, c'est quand même des chansons qui sont dark, mais que je me suis permis de mettre de la lumière à la fin, à la finalité dans les textes, à la finalité dans la musique, puis c'est ce qui fait en sorte que c'est un peu plus pop.
En 2019, t'as lancé Eben. Évidemment, la tournée a pas eu lieu tant que t'aurais voulu, parce qu'il y a eu la pandémie au printemps 2020, qui aurait été le bout où t'aurais été en tournée, probablement. Est-ce qu'il y a eu un deuil à faire de tout ça, de dire, bon, ben il aura la vie en vente de disques, puis il aura la vie dans les oreilles des gens, mais il aura pas la vie sur scène?
C'est quand même drôle ce que tu viens de dire, parce que la vie dans la vente de disques, ça existe plus non plus.
Au moins dans l'écoute des gens, parce qu'on a écouté de la musique comme on n'en a jamais écouté, probablement, pendant la pandémie.
On en a écouté comme on n'en a jamais écouté, mais... il y en a sorti beaucoup comme il n'y en a jamais sorti
Ça.
On parle de l'année dernière, il y a eu 900 albums au Québec qui sont sortis. Ça fait 18 albums par semaine. Je pense qu'un auditeur normal n'est pas capable de tout écouter cette musique-là. Je veux dire, Grégory Charles a arrêté son show là, où il faisait des demandes spéciales parce que ça marchait plus. Il y a trop de nouvelles musiques qui sortent. Ce qui est beau, ce qui est difficile aussi, de se démarquer, de faire quelque chose qui fait en sorte que les gens ont envie d'écouter ta tune à toi, ont envie d'écouter ton matériel à toi plus qu'une fois. Parce que c'est bien beau de l'écouter une fois, mais ce qui est bon, c'est de l'écouter 2, 3, 4, 5, 6 fois, là, tu sais. D'écouter l'album en loupe, c'est ça qui fait en sorte que, bon, ben, les artistes peuvent survivre à travers ça. Est-ce que j'ai eu à faire un deuil, pour revenir à ta question, sur Eben? Oui puis non. Je pense que, tu sais, on a tous fait des sacrifices dans cette pandémie-là. Ça a été le mien. Je trouve ça dommage que Eben ait pas pu vivre à son plein potentiel. Mais, ça me donne une très bonne excuse de devoir en faire le maximum en spectacle. Puis c'est ce que je fais dans ma tournée acoustique en ce moment. Je me permets de faire tout Panorama au complet et d'aller rajouter des tunes des Ben dedans, des tunes de Chaos aussi, des tunes de la série. Fait que tu sais, c'est ça, c'est comme un beau melting pot, puis je sens pas que j'ai été au bout de ces chansons-là. Fait que c'est le fun, tu sais, je suis pas tanné des jouets, ou les gens sont pas tannés des ententes. Tu sais, il y en a même qui viennent découvrir et disent, ah, c'est bon, ça doit être son dernier album. Ben non, tu sais, c'est le premier qui a pas été assez, selon moi, découvert. Puis c'est ça pourquoi je me bats tous les jours d'essayer de faire découvrir ma musique, puis de faire en sorte que les gens aient envie de l'écouter, même quand je suis pas là.
Est-ce que c'était un beau challenge, ça, de prendre les chansons plus rock de Eben puis d'amener ça acoustique?
C'était un beau challenge, mais c'était surtout une méchante belle ça a été une belle expérience de faire ça avec mon guitariste Vincent Gendron. On s'est assis. D'habitude, ce qu'on faisait avant la pandémie, c'est qu'on jouait des tunes, puis on arrivait en show, puis on la répétait deux, trois fois, puis on était comme, OK, tu sais, les deux, on est des professionnels, on check nos affaires chacun de notre côté, on arrive, on la match ensemble, puis on la fait. Tandis que là, on s'est donné le temps, on s'est permis de prendre le temps de se dire, OK, pense-y de ton bar, je vais y penser de mon bar. Qu'est-ce que t'en penses ça dans mon salon chez nous? Qu'est-ce que t'en penses de ça à la place de ça comme parts? OK, ben on pourrait peut-être changer la tonalité, ça nous amènerait à telle place. Puis ça a vraiment été un travail le fun. Puis même lui, là, tu sais, j'y vole pas les mots de la bouche, tu sais. Je veux dire, c'est lui qui me l'a dit, qui a trippé faire ça. Moi, j'ai trippé faire ça, puis ça a donné un résultat qui est super intéressant aussi en spectacle. Il y a des tunes qu'on est pas mal dessus. Il y en a d'autres qu'on est carrément ailleurs, tu sais. On passe comme une tune comme Noir sur le premier album, qui est la tune la plus rock de l'album, qui a du dubstep dedans, qui a des beats vraiment très intenses. On a été la faire à deux guitares, puis on est comme, on rajoutera pas trop d'affaires, ça sonne de même, puis c'est cool comme ça, tu sais. Fait qu'il faut venir les voir en show, ces tunes-là, parce qu'ils existent pas nulle part ailleurs que en spectacle.
Et en même temps, ça met le texte à l'avant-plan.
Exactement, d'avoir juste deux guitares ou quelquefois même juste une guitare électrique, pas de kick, pas d'instrument de plus, là, vraiment juste une guitare électrique puis ma voix, ben si tu comprends pas le texte, parce que j'aime ça bien prononcer aussi, si tu comprends pas le texte, c'est que ça te tente pas, là, tu veux pas jouer. Là.
Simon, tu as participé à l'écriture de plusieurs chansons sur l'album. C'était clair que tu allais travailler un peu sur plusieurs chansons?
C'était pas clair, c'était un désir.
Ouais.
C'était un désir que j'avais, fait que quand j'ai envie de faire quelque chose, j'emboîte le pas. Fait que j'ai commencé à écrire des chansons, j'ai appelé des amis, j'ai appelé du monde en Belgique, j'ai appelé des amis qui avaient écrit sur le premier album. J'ai demandé des textes à des amis aussi. Ça a sorti qu'on a écrit une tune avec Éric Charland, qui est un excellent auteur-compositeur-interprète, avec Laurence Castera. Vincent Vallière m'a envoyé une chanson aussi qui se retrouve sur l'album, qui est Dans l'œil de la tempête. Amel Aouni m'en a écrit une couple. On a écrit aussi ensemble. J'en ai écrit avec mon guitariste. Fait que tu sais, j'ai pas dit j'aimerais ça écrire sur plus de tunes, puis j'attendais que les affaires arrivent. Je me suis mis à l'écriture, je me suis descendu un crayon, puis let's go, on y va, on écrit. Puis là, après ça, ben dans l'eau des chansons, avec Étienne, le réalisateur, ben on a fait, OK, ben celle-là est cool, celle-là est le fun, celle-là, je pense, ça fit aussi. OK, celle-là, on devrait réécrire quelques affaires dedans, on devrait solidifier des trucs. Puis finalement, ça s'est retrouvé que j'ai co-écrit 6 des 10 chansons sur l'album. Fait que, veux pas, c'est un bel accomplissement quand on regarde le premier album. Il y a une évolution dans tout ça. Puis, j'ai vraiment trippé parce que, tu sais, quelquefois, tu prends une chanson, tu te dis, OK, ben, tu sais, elle est bien cute pour moi, là, mais là, après ça, elle se rend à un autre niveau, tu sais. Puis sur le premier album, la chanson qui a été le plus loin en radio, qui a été le plus écoutée, c'est Les pieds dans le vide. La seule chanson sur laquelle j'ai co-écrit le texte et la musique. Fait que je me suis dit, ah, peut-être que c'est ça que les gens s'attendent de moi, que j'écrive plus aussi. Ça m'a donné le coup de pied dans le derrière que ça prenait. Puis ben là, je me retrouve un album plus loin avec 6 co-compositions. Peut-être un jour qu'il y aura une composition complète 100% originale Simon Morin, mais c'est pas un objectif dans ma tête. On est capable d'aller plus loin en équipe. Ouais. Tu sais, moi je crois beaucoup en ça, la force d'une équipe, la force d'un team, la force de 2, 3, 4, 10, 20 Québec. Je pense que plus qu'on se met ensemble puis qu'on travaille dans un même sens, plus qu'on arrive à des résultats qui peuvent être plus grands que nous. Mais j'ai réalisé qu'il fallait aussi que je fasse partie de l'équation, je pense, pour que ça fasse du sens puis que les gens se sentent interpellés.
Pourquoi Étienne Chagnon à la réalisation? Pourquoi tu as voulu travailler avec lui?
Étienne, ça fait très longtemps que je le vois aller. Je l'ai vu avec Amel Aouni, dans le fond, quand ils ont fait les premiers balbutiements là-dessus. J'ai été les voir à la fin d'un des lancements au ministère, je m'en souviens encore, puis j'ai fait comme, toi t'es bon en tabarouette, puis toi t'es bon en tabarouette, un jour je veux travailler avec vous, puis comme je dis, ben je laisse pas les affaires aller, fait que je me suis arrangé pour, bon, un meeting, deux meetings, puis là, à un moment donné, j'ai appelé Amé pour dire, j'aurais besoin de tunes pour le deuxième album, puis elle m'a dit, hey, t'as-tu repensé à ça pour mon chum comme réalisation? J'ai dit, ben je suis là, je suis en train de penser à ça. Elle dit, viens dans la maison, viens voir Étienne. Fait que là, je suis arrivé à la maison, puis ça a cliqué là, tout de suite de même avec lui. C'est vraiment, c'est rendu un ami au-delà de la job en plus. Fait que c'est juste, c'est juste vraiment cool. Ça s'est bien passé. Je suis vraiment content. Puis je trouve qu'on comme on est encore en train de s'apprendre à travers tout ce processus-là. Puis on a vraiment pris le temps de le faire. J'ai comme l'impression que c'est marqué Simon Morin, mais en dessous, c'est marqué Étienne Chagnon aussi. Il l'a pris avec cœur, cet album-là. Puis je lui en suis vraiment reconnaissant parce qu'il a été d'une grande aide pour vraiment mettre le doigt sur le bon arrangement pour les bonnes chansons.
Quand Vallière nous donne une chanson,
ouais.
C'est un beau cadeau, ça?
C'est un méchant beau cadeau. Je l'ai demandé, tu sais. Je me suis pas gêné parce que je me souviens d'une fois qu'on était au Club Soda. Je me souviens pas c'était qui le lancement. Mais on était dans un lancement, puis il est venu m'aborder au bar, puis il m'a dit « Hey Simon, c'est vraiment cool tes auditions à l'aveugle, mais mes enfants n'arrêtent pas de les écouter, je t'ai cœuré. » Fait que là, j'ai dit « Ben, je suis désolé, mais je m'en suis souvenu. » Fait que je me suis dit « Ah, je vais y écrire, tu sais, un texto par Instagram. » Ouais. Puis là, j'ai juste dit « Hey Vincent, je cherche des tunes pour mon troisième. » Puis là, il m'a dit « Ah, je vais checker ça, mais je suis pas sûr que j'ai grand-chose, mais merci, tu sais, de penser à moi. » Puis peut-être 3-4 mois plus tard, il me revient et dit « Hey Simon, j'ai ce tune-là que moi, j'utiliserai pas, mais ça me fait de la peine de pas l'utiliser. Dis-moi qu'est-ce que t'en penses. » T'sais. Parce que je pense qu'il était en écriture aussi, lui, à ce moment-là. Puis j'ai bien gros trippé. J'ai écouté la tune une fois et j'ai fait « Ok, ben là, je la veux. » Il a fait « Parfait, c'est beau, est à toi. » Puis j'ai fait les arrangements, j'y ai renvoyé puis il m'a dit « Man, c'est parfait, ce tune-là, c'est super cool. » Puis il est super le fun à jouer en show. Tu sais, on ressent un peu de Vallière en arrière dans la, mm-hmm. dans la façon d'écrire, dans la façon de proposer les accords, mais ça me gêne pas du tout parce que c'est un méchant beau cadeau. Puis à travers le lot, elle fit big time. Tu sais, elle rentre. Si tu le sais pas, tu te diras pas genre c'est une toune de Vallière. T'sais.
Est-ce qu'il y a un côté intimidant quand on demande une toune de peur de pas l'aimer? Parce qu'on veut pas dire non.
Oui.
Quand Vallière nous donne une toune, j'imagine.
Oui, puis non. Parce que Vincent, il est tellement. Tu sais, il est one of the boys.
Il prendrait pas mal.
Humain. Et au-delà qu'il prendrait pas mal, il m'a écrit: Hey Simon, moi je l'aime la toune, mais si tu l'aimes pas, là.
C'est correct.
T'as pas sauvé, t'es même pas obligé de me le dire, c'est pas grave, tu sais. Puis j'ai dit: Ben non, je vais t'en donner des nouvelles. Puis tu sais, même lui, là, il m'a averti d'avance. Fait que tu sais, je suis comme. J'étais zéro stressé parce que c'était lui, mais si, je t'avouerais que si, mettons, quelqu'un me dit, ben, je dis quelqu'un, faudrait que je trouve qui, là, mais mettons, quelqu'un qui me dit, je te donne la toune, t'as pas le choix de la mettre sur ton album, je pense que ça serait un affront, puis en plus, j'y dirais, genre, hey, elle est pas bonne ta toune, puis je l'aurais même pas écouté. Tu sais, dans le sens que, je pense que moi, ce que j'aime des humains, c'est les gens qui sont humains. Puis Vallière, ce n'est un vrai. On se le dit là, des fois, je pense que tu dois en entendre parler aussi. Là. Les vrais puis les autres. Ben les vrais, je pense que c'est des gens comme Vallière, du monde qui ont pas peur de dire les affaires, puis qui ont pas peur non plus de proposer des trucs puis que ça soit pas accepté nécessairement. T'sais, Vallière, on le voit comme c'est un auteur-compositeur, interprète au Québec qui est important, qui est imposant. Mais je pense que justement, les vrais importants imposants sont pas non plus des gens qui vont faire la grosse tête ou qui vont faire la grosse gueule. Là, t'sais. Ils restent humbles, ces gens-là.
Est-ce qu'il faut encore un tout quand on fait un album ou on y va à la pièce?
Moi, je suis de l'école. J'ai déjà connu des albums concept puis j'ai trippé sur ça. Quand je dis album concept, là,
c'est un album qui s'écoute du début à la fin dans un ordre logique.
Écoute mon album du début à la fin puis tu vas comprendre quelque chose de différent que si tu l'écoutes à l'envers ou si tu l'écoutes dans l'ordre que toi tu veux. T'sais. Moi, j'ai fait un ordre à travers ça. J'y ai fait une courbe pour que ça fasse du sens. Comme si tu mettais un vinyle sur sa plaque puis tu le laissais tourner puis tu l'écoutais pour vrai. Je pense qu'aujourd'hui, on y va plus à la pièce. Mais moi, comme j'avais la chance de faire un album complet, je me suis dit, je vais me permettre de faire un album complet et non pas 10 tunes qui viennent une après l'autre. C'est sûr que ça arrive avec des contraintes de faire ce genre de choix-là, mais je trouve que c'est des belles contraintes. C'est des, tu sais, bon, ben, à un moment donné, avec Étienne, il y avait une tune que je trouvais super bonne, mais Étienne a dit, ouais, mais dans la courbe, il me semble que c'est weird, tu sais, on aurait besoin plus de ça, moins de ci, tu sais, fait on a juste, j'ai juste placé les affaires un peu différemment, mais je trouve que c'est ce qui fait en sorte que, justement, t'as une richesse dans un album, puis ça tombe après des pièces par pièce, fait qu'au bout de la ligne, tu sais, ça revient un peu au même. C'est juste que dans ton choix de chanson, dans ton choix d'arrangement, dans ton choix de sonorité, tu vas peut-être faire des chemins un peu différents. Puis je pense que c'est important d'avoir une uniformité au bout de la ligne. T'sais. Moi, ce que je voulais, c'est pas faire une tune qui est méga rock puis faire une tune qui est super classique piano voix, tu sais, j'avais besoin que ça se tienne un peu. Puis c'est aussi ce qui fait en sorte que cet album là est un peu plus pop puis un peu plus clean, parce que j'ai voulu aller faire une tune piano voix, tu sais. J'ai voulu aller me permettre ça pour Tom, pour moi, pour le fait de montrer aussi une autre couleur. Je pense que quand on écoute des émissions comme Star Academy ou La Voix, tu sais, on nous voit dans un créneau. C'est-à-dire que moi, on m'a vu rock. On m'a mis dans cette case-là sans même me le demander. On m'a dit, toi, t'es rock. T'as fait du rock. T'es rock. Mais je suis autre chose que ça. Je suis plus que ça. Puis je pense que je suis capable de l'offrir. Puis c'est en écoutant mes albums, justement, que tu comprends que, bon, mais j'en ai fait des covers, j'en ai fait des affaires, puis qui font en sorte que je suis capable de passer par plein de chemins. Mais faut juste se permettre aussi d'avoir l'ouverture d'esprit que je suis pas juste rock.
Il y a une chanson qui ne devait pas être sur l'album, qui s'appelle Ma Chance. Il y a quelqu'un dans ton entourage proche qui a beaucoup insisté. Elle a un bébé sur les genoux présentement. C'est ta blonde.
Ouais.
Et là, c'est l'extrait radio. Et ça marche.
Ouais.
Attends, tu dis, je te l'avais dit ou.
C'est pas de même qu'elle me l'a dit, là. Elle est encore plus haute que ça, parce qu'au début, quand que. Bon, c'est une des premières tunes que j'ai composées avec mes amis belges, les Delta. Puis, je me suis permis de l'écrire. Puis là, elle l'a écoutée, puis elle a dit, je pense que c'est ma préférée. Puis le plus ça allait dans les écritures, elle a dit, je pense vraiment que c'est ma préférée. Puis à un moment donné, j'ai dit, je pense qu'on la mettra pas sur l'album. Elle a dit, tu fais une erreur. Puis là, j'ai fait, je pense que je vais la proposer à quelqu'un d'autre, peut-être. C'est comme, elle dit, si tu fais ça, il va avoir du succès avec cette chanson-là, ça va marcher. Fait que là, je fais, OK. Puis là, un moment donné, genre, avec Étienne, je fais, hey, je pense que celle-là, on devrait la ramener, tu sais, avec la pression de ma blonde. finalement, on l'a ramenée, puis tu sais quoi, genre, je trouve qu'elle fit encore plus sur l'album. Peut-être par ce doute-là, tu sais, c'est important de se remettre en question. De juste faire des choix parce que t'es sûr de toi, ça t'amène pas dans des positions qui font en sorte que t'es sûr à 100%. Là, je suis vraiment plus sûr, puis c'est cool parce que elle l'aime, puis Tom l'aime, puis les gens l'aiment, puis les gens ont l'air de l'aimer en ce moment à radio. Je reçois des beaux commentaires par rapport à ça. Ça a été vraiment, quand on a sorti l'album, j'ai fait des sondages là à travers toutes mes chansons, puis celle-là ressortait fort dans les sondages comme quoi qu'elle était aimée. Fait que j'ai fait... Je pense que c'est plus... C'est pas elle qui a dit « j'avais raison », je pense que c'est moi qui a dit « t'avais raison ».
C'est rassurant quand le premier extrait embarque. Évidemment, on fait pas ça pour les radios, mais reste que ça aide quand même à la diffusion de la musique puis de la chanson. Puis moi, quand la tune embarque, c'est rassurant, j'imagine?
C'est rassurant, mais moi, ça me surprend toujours. C'est tout le temps un genre de « ah ouais ». Il y a des gens qui ont considéré cette chanson-là dans les radios, puis ils ont fait en sorte que d'autres gens vont l'écouter, tu sais. Ça se propage, ce son-là. Les gens sont intéressés d'entendre ma musique. Moi, ça me fiche tout le temps un peu, puis je suis tout le temps vraiment content quand je reçois mes rapports parce qu'il y a des gens là qui travaillent pour faire en sorte que les tunes se rendent jusqu'à chez vous. Quand ces gens-là m'envoient des rapports puis qu'ils me disent « Hey Simon, la tune est rentrée à telle place », moi, ça me fait toujours triper, tu sais. Toujours un gros courriel de « Wow, félicitations, gang, on a bien travaillé, c'est cool. » Mais en même temps, tu sais, l'inverse est aussi vrai, tu sais, c'est décevant quand que la chanson rentre pas, ou quand là, tu te poses des questions sur ton talent, tu te poses des questions sur la chanson, tu te poses des questions sur plein de trucs, puis tu te dis, OK, mais pourquoi qu'elle est pas rentrée? Elle est peut-être pas assez bonne, mais des fois, c'est que tu tombes dans un creux entre deux chansons qui ressemblent.
Oui, bien, ou... toujours une question de timing.
Toujours une question de timing. Là. Je pense que c'est, au fait, il y a un chanteur qui m'a déjà dit, tout est une question de timing. Il m'a dit, moi, j'aurais probablement eu plus de succès si j'avais décidé de sortir mon album la journée que j'ai décidé de sortir mon album. Mais il dit, on l'a retardé 2 semaines. Puis il dit, une semaine après qu'on ait décidé de la retarder 2 semaines, il y a une petite chanteuse de Charlemagne qui a sorti son album, puis ça a tout tué mes affaires. Puis là, j'ai fait comme, ah ouais, Grégory, pour vrai? Mets ça dans un
Grégory
party.
Qui?
Grégory, joue du piano.
Ah, OK.
Oui. Connais bien les chansons. Mais il me dit, tout est une question de timing dans ce métier-là. C'est super important. Puis des fois, c'est dur de le pogner, ce timing-là. Ouais. C'est tough de pogner le bon timing pour, puis ça en prend une chanson. Tu sais, on parlait de Vallière tantôt. On va s'aimer encore. Il y a plein de bons textes. Il y a plein de bonnes tunes. Moi, je trippe sur tout ce qu'il a fait avant. On va s'aimer encore. Puis je trippe tout sur ce qu'il fait en ce moment. Mais ça prend une chanson pour que les gens s'aperçoivent à quel point les gens, à quel point les artistes, ben, on est polyvalent et qu'on a plein d'affaires à offrir. M'a dire que je n'ai essayé des one-timers, là, tu sais, pour j'en ai essayé. Sur le premier album, il y avait 7 extraits Après ça, K.O., on a fait un extrait. Celui-là, on est rendu au deuxième extrait. Je suis comme, je peux pas plus essayer que ça, là, dans ma tête. J'aimerais ça plus, mais ça a l'air que ça prend du temps, puis faut laisser le temps au temps de faire les choses.
De toute façon, on sait jamais ce qui va faire que ça va arriver.
Je pourrais bien arrêter de faire de la musique, puis dans 3 ans, il y a quelqu'un qui va sortir une de mes tunes, elle va passer à la radio, puis ça va décoller. Tu sais, on sait pas. On sait pas.
Il y a eu le lancement d'album. Tu l'as vécu comment, ce lancement-là? Évidemment, c'est le deuxième. Il y a une habitude, parce qu'on l'a vécu une fois.
Ouais.
Est-ce qu'on essaie de le savourer autant? Parce que le premier a quand même quelque chose de particulier. C'est le rêve, on aboutit. Mais il faut avoir autant de plaisir au deuxième qu'au premier. Il faut que ce soit aussi capoté que le premier.
J'ai eu autant de plaisir. Je me suis permis de le refaire à la même place. Quasiment avec le même monde. Dans le même feel, dans le même mood. Tu sais, ça coûte cher un lancement d'album.
Ouais.
Celui-là, je l'ai pas.
D'ailleurs, plus grand monde qui en font maintenant.
Il n'y a plus personne presque en fait des vrais complets. Je me suis permis, je me le suis payé. Ça m'a coûté vraiment cher. Je suis fier de moi, je suis content de l'avoir fait. Je trouve ça super cool. Je l'ai savouré différemment que le premier. Puis le premier, tu sais, après coup, j'y ai pensé, puis j'ai fait, t'aurais pu faire un peu plus différent. Tu sais, parce que...
Même place, band.
C'est presque le même band. Mais j'aurais pu faire un peu plus différent que ça. Tu sais, j'aurais pu essayer d'innover un peu plus. Mais j'ai comme eu l'impression que le premier est plus passé dans le beurre à cause de la pandémie.
Bien sûr.
Fait que je l'ai savouré différemment parce que, comme je te dis aussi, je me suis payé. Mais je suis content. C'est le fun. C'est le fun de faire des lancements. C'est le fun de faire découvrir de la musique, voir tes amis, tes collègues aussi musiciens. Puis ça, on fait ça en début de semaine parce qu'on veut aussi avoir des collègues musiciens. On n'a pas la chance de les croiser souvent. Ouais. Sur la route, l'été, c'est t'es croisé dans les festivals, puis là, eux autres sont en souper pendant que toi, t'es en train de faire un soundcheck, puis que là, tu joues, puis là, eux autres jouent après toi, fait que t'as pas le temps de leur parler. Puis ils regardent sur le stage, puis tu dis, hey, faut que je m'en aille, demain, j'en ai un autre, fait que bye, puis tu sais, c'est un peu ça, là. Fait que c'est cool de croiser les collègues, ils prennent toujours des bières un peu plus longtemps à la fin, puis là, on jase avec eux autres, puis c'est cool, tu sais. Mais je l'ai vécu juste un peu différemment, puis je pense que la pandémie, malgré tout, a fait des ravages par rapport au public. C'est difficile de les sortir de chez eux. C'est difficile de les amener voir des spectacles. C'est tough de faire en sorte que les gens... Puis, je m'inclus là-dedans, là. Tu sais, je veux dire, hier, il y a un de mes chums qui m'a dit, tu viens-tu prendre une bière? Puis, ça, j'y ai pas été, tu sais. Juste aller prendre une bière avec un bon chum, tu sais, ça a été tough de me sortir de chez nous, puis j'ai même pas été game de sortir de chez nous. Je comprends le monde qui font comme, hey, on y va-tu, tu sais, la récession, toutes les affaires, je pense que c'est difficile. Moi, ce que je propose, c'est tout le temps des affaires super, je vais dire la même qualité-prix, là, tu sais, genre, j'essaie pas d'escroquer le monde, quoi que ce soit, j'y vais au minimum du prix que je peux aller, puis... Je promets aux gens de passer une belle soirée, une soirée de réflexion, une soirée de fun, de partage, puis de dire que hey, j'ai bien fait d'y aller. Tu sais. C'est ce que je promets au monde.
Je vais te parler de K.O.
Ouais.
Quel bilan tu fais de cette expérience-là maintenant que c'est diffusé, fait, tout ça, et que ça s'en va à l'international en plus?
Ouais. Un bilan complètement fou. Personnellement, là, ça a été une expérience complètement débile. J'ai trippé solide ma vie. J'y repense encore dans l'état dans lequel ça me mettait aussi. C'est sûr que j'ai pu me concentrer à 100% sur K.O. quand j'étais là. Tu sais, j'ai fait que ça. Je faisais pas d'autre musique que les tunes de K.O. avec toutes les. Tu sais, comme j'étais devenu mon personnage. Je revenais à la maison puis je parlais à ma blonde puis j'étais comme hey, il est arrivé ça, si ça, Christian Bégin, Fanny Mallette, puis là Lévi Doré, puis là Daniel Bélanger, puis là tu sais, genre je gobais tout puis j'analysais tout. C'est une expérience de vie, tu sais. J'ai eu énormément de plaisir. Si ça serait à refaire demain, je ferais la même affaire. Si là ça s'en va à l'international, c'est super cool. Qu'est-ce que ça va donner, j'en ai aucune idée. Mais je veux pas imputer l'expérience que j'ai vécue avec les résultats que ça va amener.
Non, non, non.
Ça, c'est super important pour moi de faire comme, OK, ben l'expérience que j'ai vécue est super cool. Après ce que ça donne, tant mieux si ça
c'est
donne
du bonus.
Chose de plus. Exact. Fait que c'est comme ça que je le vois, mais j'ai vraiment trippé. Là, plus qu'on m'en parle, plus qu'on parle de mon personnage, ça arrive là en spectacle, tu sais, comme après les auditions. Ouais, ton personnage, t'es la faute, faut pas oublier que c'était un personnage. Je veux dire, Inevo serait pas ici en ce moment, Raphaël, il serait pas là en train de te parler
non, non.
À Bouftify et à Sorel, tu sais, genre il était plus big shot que ça, il avait comme il voyait pas la vie comme n'importe qui d'autre, tu sais, ouais. Il avait c'était important que je tombe ce personnage là et non que j'essaie de le coller sur moi, j'avais besoin de l'extérioriser d'une autre façon, puis c'était ça qui était écrit sur la feuille, fait que moi j'ai fait ce qui était écrit sur la feuille, fait que du Kitex puis tout, tu sais, ma blonde n'est pas d'accord avec ça. Que je mette du Kitex, elle veut pas, mais lui il en mettait, il avait des bags sur tous les doigts, il était, tu sais, c'était un autre, c'est vraiment un autre type, c'est aussi quelqu'un qui aimait pas le, qui aimait moins le monde que moi. Moi j'adore le monde, j'aime ça là, ici c'est le fun que le monde soit venu pour venir écouter l'entrevue, je trippe, je trouve ça le fun, mais Inevo il aurait pas trippé.
C'est comment jouer les scènes de l'attentat?
Tu sais, c'est tellement bien monté, là. Parce que pour vrai, moi, c'était... Bon, on va tourner silence sur le plateau. On va enlever les masques. On va enlever les lunettes. OK, c'est beau. On fait les retouches. On va mettre les masques. OK, on enlève les masques. OK, on va tourner dans 3, 2, 1. Silence sur le plateau. Parfait. Explosion dans 3, 2, 1. Ça explose. Tu te pitches sur un tapis. OK, coupé, c'est beau, on retourne à retouche maquillette. Tu le sens pas, là, la
tête. Ouais.
Les pires scènes, je pense que c'était les scènes justement avec Christian Bégin où que il me parlait que j'avais tué mon frère parce qu'on pensait que... Au fait, on pense que c'est moi qui ai tué mon frère. Je veux pas spoiler personne si jamais vous voulez aller l'écouter, il est sur TVA, Cube. Mais c'est ça, c'est... Je pense que c'était ces scènes-là qui étaient les plus dures, qui étaient les plus tough à tourner quand que tu te fais donner de la merde, mettons, par ton... père, qui est Christian Bégin. Mais Christian, il a tellement été cool avec moi, ben tu sais. Oui. Il me donnait des conseils entre les scènes, puis il partait, il disait de la, tu sais, il disait des niaiseries entre les scènes, puis il disait, tu sais, Simon, c'est tellement une série qui est lourde qu'on a besoin de
décrocher. Faut faire ça. Ouais, ben
faut
oui.
faire ah le oui. filtre de, on revient à réalité, c'est cool, ok, bon, on retombe dedans, 3, 2, 1, on tourne. Ok, coupé. Oh, let's go. Ok, on jase de d'autres. Tu sais, c'était important pour
sinon,
lui.
Sinon, on est juste dans l'eau pis on ramène ça à la maison. Après.
Ben, c'est qu'à un moment donné, ça devient, je pense que aussi, ça devient overjoué, là. Oh, parce que là, t'es tellement lourd pis là, tu veux être lourd pis là, tu veux montrer que c'est lourd pis là, t'es lourd pis là, tu descends. Pis là, fait que là, tandis qu'avec, tu sais, Christian, il me remontait tout le temps pis là, ok, on repart lourd, c'est lourd. Ok, on revient. Ok, c'est lourd. Ok, c'est, tu sais, il y avait quelque chose de super, comment je peux dire, j'ai appris énormément de Christian. Puis il a été super généreux avec moi, puis ça a été vraiment une super de belle rencontre. Ça a été, j'espère, une première rencontre.
Sur l'album, il y a une chanson qui s'appelle « Je te promets
ouais. »,
qui est une chanson pour ton fils, mais qui n'a pas été écrite par toi.
Non.
Qui a été écrite par Amé.
Le secret là, dans ça, là, c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'écoute d'envie, comme Amé. On s'est assis autour de la table en dînant pendant qu'on était en train d'enregistrer des tunes, qu'on... on n'avait pas tout le big picture de l'album, là, tu sais. Puis Amé écouté. Tu sais, on dit que c'est pour Tom, cette chanson-là, mais étant un peu pour moi aussi, c'est une chanson qui... C'est une chanson qui parle de paternité, dans le fond, tu sais, qui parle de l'inquiétude qui vient avec la paternité. Je pense qu'il y a des hommes qui sont pas confortables de parler de ça. Moi, ça me dérange pas en tout. Ça me dérange pas de pleurer non plus dans la vie. Puis, tu sais, on était autour de la table, puis je parlais de ça ouvertement, puis Amé, elle a juste écouté. Puis elle a même pas pris de notes, là. On mangeait, peu importe, on était en train de dîner. Puis à un moment donné, elle m'est arrivée avec ça, j'ai dit à Étienne, ce serait cool de faire un tune piano. Ouais, c'est sûr que j'étais attendri par le fait que ma blonde était enceinte. Puis là, on avait vu les premières images. Puis que là, on savait que c'était un petit garçon. Puis là, ci, puis là, ça. Fait que tu sais, comme... Puis à un moment donné, Étienne m'a dit, ouais, ça prendrait un sujet qui est fort pour faire une tune piano. Ouais. Je vais OK, c'est bon, je vais essayer d'écrire des affaires. Puis là, on écrit des trucs. J'ai même pas ça dans la tête. Là. Puis là, à un moment donné, elle dit « Hey, Simon, j'ai fait un texte sur la musique qu'Étienne propose. » Puis là, puis j'ai lu le texte, puis j'ai vécu un inconfort parce que je dis « père » dans la chanson. Puis j'étais comme « Hey, je suis pas confortable, mais... » Puis là, j'ai réécouté. J'ai pris le temps de vraiment l'assimiler, puis j'ai fait « Hey, tu sais quoi, c'est une super de belle tune parce que justement, je pense que le texte est vraiment assumé, tu sais, sur mes inquiétudes. Sur le fait que sur ce que j'ai envie de dire à mon fils même s'il est pas là encore, tu sais. Puis la toune, anecdote, la toune, quand Camille l'a écrit, elle l'a appelée « Devant les grands mystères ». Puis là, j'ai fait comme, Amin, je trouve que ça sonne un peu église, là.
Devant les grands mystères de la foi.
On dirait que ça sonnait de même pour moi. Fait que j'ai dit, tu sais, je sais que je chante ça dans tune, c'est le refrain. Mais je dis, il me semble qu'on pourrait peut-être trouver un titre plus simple puis moins église, là, tu sais. Fait que, on a appelé ça, je te promets, mais c'était juste une anecdote de même, qui n'a pas rapport avec toute l'affaire sentimentale en arrière de ça.
Est-ce que de la chanter maintenant qu'il est là, c'est spécial?
C'est spécial parce que je me souviens, puis Audrey pourrait comme confirmer que c'est vrai. Tu sais, on l'a fait, cette chanson-là, il était dans son bedon. Puis là, je l'ai joué, je l'ai fait entendre à Audrey, je l'ai fait, tu sais, comme j'ai partagé.
Mm-hmm.
Puis quand Tom est né, dans ses deux premiers mois, là, quand on mettait la chanson à côté de lui, là, il bougeait, là, puis là, il arrêtait. Puis il écoutait la chanson, comme s'il la connaissait, comme si ça lui disait quelque chose, tu sais. Fait que c'est beau à voir, là, c'est le fun de se dire comme, aïe, aïe, tu sais, il comprend. On dirait qu'il l'a déjà entendu, la chanson, tu sais. C'est, mm-hmm. c'est magnifique. C'est juste vraiment magnifique à voir.
De savoir que plus tard, il aura accès à ça. De voir comment papa se sentait avant qu'il arrive, alors que toute une génération qui n'a pas eu grand accès aux émotions de leur papa, particulièrement. De voir que lui, il aura accès à ça de son père. Est-ce que c'est beau?
Tu me le fais penser là, mais j'essaie de pas trop y penser. Ben, c'est comme toutes les affaires que je fais, tu sais. Le premier album, je pensais jamais. J'ai toujours voulu avoir un enfant, mais tu sais, quand tu veux un enfant, c'est une chose. Après ça, quand tu le fais, c'est un autre affaire. Puis quand tu l'as, c'est un autre encore. Je me dis, m'arrive de quoi demain matin, Tom, il a un accès à moi quand même assez large.
Ouais.
Avec tous les médias sociaux sur lesquels je travaille fort, avec les albums, avec la série. Demain, je disparais, il y a quand même quelque chose sur quoi se retenir, tu sais. Fait que, oui, mais non. Tu sais, dans le sens que j'y ai pensé, mais j'essaie de pas trop y penser. Je continue d'essayer de vivre, puis continuer d'être le plus authentique sans me laisser trop affecté par ça, parce que ça pourrait justement me castrer pour faire des mauvais jeux. Mais tu sais, ça pourrait un peu me limiter, bloquer si je me dis, je ferai pas ça à cause de mon gars. Tu sais, ça m'est déjà arrivé à un moment donné d'aller faire une entrevue puis de me dire, je dirais pas ça parce qu'à ce temps j'ai un enfant. Mais je veux dire, de pas le dire dans une chanson, ça serait triste, là. Tu sais, je pense que s'il y a des affaires qui sont à assumer, il y a des affaires qui sont à mentionner, qui sont à dire.
Ah ouais.
Je pense que c'est important de le faire.
Là, c'est la tournée acoustique. Ouais. Il y a entre autres le 28 avril à Montréal.
Ouais.
À la Place des Arts, Salto de l'Éveillé. Le lendemain 29, pas loin d'ici, Drummondville, à l'Espace Mandeville. Je sais que t'as un show aussi à Trois-Rivières.
Trois-Rivières, là, c'est genre, pas samedi, pas demain, c'est samedi d'après. Fait que toutes les gens qui sont ici, si jamais ça vous tente de venir voir un show, là, Trois-Rivières, je sais que c'est pas trop loin. Ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment le fun que vous veniez vivre ce trip-là avec nous autres. Panorama Acoustique, c'est un show qui, c'est pas des grosses guitares électriques, c'est des belles guitares acoustiques. C'est des textes. J'explique les chansons. Je vais plus loin que juste les chansons. J'explique d'où ce qu'ils partent, de comment c'est arrivé ces affaires-là. Puis je me permets des petites surprises à travers tout le show. Je me permets du unplug aussi complètement à zéro. Un peu comme ce que je vais vous faire là, si jamais ça vous tente, la gang, ici à midi. Je peux vous faire une petite toune, là, juste... j'ai amené ma guitare juste pour ça. Mais dans le show acoustique, je me permets justement d'aller voir le public, d'être proche d'eux, puis de me gâter moi aussi.
C'est ça. Est-ce qu'il y a des festivals cet été? Acoustique, j'imagine?
Je suis en train de travailler sur le nouveau show. Je viens de déménager, là, j'ai ça dans ma liste à faire, là, de monter un nouveau spectacle. Oui, il va y avoir des festivals cet été. On a une belle Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marceline le 23 juin. Je l'ai même pas annoncé encore, dans le sens que on va finir la tournée acoustique, puis après ça, on va rentrer dans la tournée d'été. Mais il y a quelques dates là, à Dolbeau, Mistassini aussi, où ce qu'on n'aura pas été avec la tournée acoustique. On s'en va là full band, on amène tous les instruments, puis on donne un Christy de gros show.
Simon, merci d'avoir été là.
Merci à vous autres, c'est vraiment le fun.